France Culture.
À Voix Nue, épisode 5, Quo Vadis et Europa. Bonjour, Josep Borrell.
Et bonjour.
Je ris, mais en fait, c'est une référence au titre du cours que vous avez dirigé pendant 20 ans à 25. L'université. 25 ans. À l'Université internationale Méniéndez Pelayo de Santander,
voilà.
Si je ne m'abuse. Quo Vadis Europa, bien sûr, pour aborder deux angles pour cette dernière émission de nos Voix Nues. À la fois le poste que vous avez occupé de 2019 à 2024, et puis l'état de l'Union européenne aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, nous enregistrons ces entretiens en 2026. Alors pour commencer, vous avez occupé le poste, double poste en fait, de haut représentant des affaires étrangères et de vice-président de la Commission européenne de l'Union européenne de 2019 à 2024. C'est le fameux HRVP dans le jargon européen. Et puis pour petit rappel, vous avez été nommé par le Conseil européen du 2 juillet 2019 aux côtés de Charles Michel, qui lui a été choisi comme président du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et d'Ursula von der Leyen, qui a été nommée présidente de la Commission, et vous preniez la succession de Federica Mogherini, diplomate italienne de la Commission Juncker. Voilà, pour le contexte général. Cette fonction donc de HRVP et cette double casquette, est-ce que, d'abord déjà, quelle fonction, là je les mets au pluriel, recouvre la double casquette? Et est-ce que vous diriez que c'est finalement un poste assez hybride qui explique qu'on surnomme souvent ce poste le ministre des Affaires étrangères, qui n'en est pas un?
Exactement. J'étais à la Convention européenne qui rédigeait le projet de constitution, qui après a été transformé dans un traité, le traité de Lisbonne. Et là, on a créé ces postes. Et je me rappelle, quand on rédigeait les postes, j'avais tout à fait mes doutes. Je me disais, mais c'est une tâche impossible. Est-ce qu'on va demander à ce bonhomme ou à cette bonne femme qui va occuper, qui allait me dire que quelques années plus tard, ça serait moi qui allais l'occuper. Pourquoi cette double casquette? C'est pourquoi cette double fonction? Parce que l'Union européenne a deux piliers. C'est difficile que les gens comprennent bien. Essayons d'expliquer. Il y a un double pilier. D'un côté, il y a les États qui se réunissent au Conseil. Et de l'autre côté, il y a la Commission, la branche exécutive qui a ses propres compétences. La politique extérieure et de la défense reste une compétence des États. Et les traités ne peuvent pas être plus clairs. La politique extérieure et la politique de défense, c'est les États, chacun à la sienne, à son armée, à ses ambassades, à sa politique extérieure. Ça n'a pas été communautarisé. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui font rapport à l'extérieur, comme l'aide au développement, où la Commission a un certain nombre de compétences. Et il y a toujours eu une bagarre entre la Commission qui veut surpasser ce rôle, le rôle strict, elle veut faire de la politique extérieure, et les États qui disent non, 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 attention, ça c'est moi. Et alors quelqu'un a dit, bon, mais écoutez, pour éviter ces bagarres, la meilleure chose c'est avoir quelqu'un qui soit à la fois celui qui essaye de bâtir une politique extérieure et des défenses, il ne faut pas oublier, et des défenses communes mais pas uniques, et en même temps qu'il soit membre de la Commission. Comme ça, ça sera plus facile qu'il se mette d'accord avec lui-même. Non ? En réalité, ça ne marche pas. En réalité, les vice-présidents de la Commission ne font rien d'autre que ce que le président de la Commission veut. Et nous avons une présidente de la Commission européenne qui est une personnalité avec un sens très vertical du pouvoir. Elle ne laisse pas beaucoup de place au vice-président. Alors, au lieu d'être un engrenage positif, ça devient une façon de visualiser le conflit entre la Commission et le Conseil. La Commission, cette Commission-là, qui se veut une Commission géopolitique, a l'ambition de protagoniser la politique extérieure et la politique de défense bien au-delà mais bien au-delà de ce que le traité lui octroie comme rôle. Et le commissaire Breton, mon ami, le commissaire Breton, le sait très bien.
Thierry Breton.
Thierry Breton. Un bon commissaire avec qui j'ai bien travaillé et qui n'a pas été renommé commissaire parce que tout le monde sait que Madame von der Leyen n'en a pas voulu. Alors, oui, en théorie, si vous êtes le président du Conseil des ministres des Affaires étrangères et en même temps vous siégez à la Commission, vous pouvez coordonner, vous pouvez mettre les choses ensemble.
En théorie.
En théorie. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que l'Union européenne a un gros problème de qui fait quoi.
C'est un souci quand, en plus, là, vous insistez sur la politique extérieure et la politique de défense. C'est un souci, Josep Borrell, qui était déjà prégnant en 2019 et qui l'est sûrement beaucoup plus en 2026. On va y revenir sur cette Europe de la défense introuvable. Mais pour rester encore un petit moment sur 2019, quand vous êtes arrivé, il y a une phrase qui a été souvent reprise depuis que vous aviez prononcé devant le Parlement européen pour parler de votre mission principale, c'est l'Union européenne doit apprendre à parler le langage de la puissance.
Exactement.
C'est force est de constater phrase, qu'on l'a pas encore, elle l'a pas encore appris.
Elle l'a pas encore appris et surtout, on a découvert, enfin j'ai découvert qu'elle n'a pas de la puissance. Pour parler le langage de la puissance, il faut l'avoir, la puissance. On a une certaine puissance molle, les fameux soft power, non? Le pouvoir mou, le pouvoir d'influencer les autres, le commerce, ça vous donne du pouvoir, oui. Mais les vrais pouvoirs, le pouvoir hard, on l'a pas. Le traité dit clairement que la Commission européenne ne représente pas l'Union en matière de politique extérieure et de défense. Il ne peut pas être plus clair. La Commission ne représente pas l'Union en matière de politique extérieure et de défense. On vit une dynamique de confusion institutionnelle parce que d'un côté, il y a les hauts représentants ou la haute représentante, qui d'après le traité, il est en charge de définir la politique commune de défense. Et de l'autre côté, il y a un commissaire à la défense dont on ne sait pas trop bien d'où vient sa légitimité. Alors ça, c'est une confusion institutionnelle où les Européens nous sont maîtres à créer la confusion institutionnelle. Et ça, tard ou tôt, il faudra qu'on revoie les traités et on clarifie qui fait quoi. Qui fait quoi, quelles sont les responsabilités des uns et des autres pour pouvoir avancer d'une façon harmonieuse.
On peut peut-être parler de votre mandat en citant trois dates, seulement trois dates. Le 15 mars 2020, date du confinement espagnol, dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le 24 février 2022, attaque russe en Ukraine. Le 7 octobre 2023, massacre d'Israéliens par le Hamas, suivi de la répression sans merci à Gaza. Et je ne parle pas des tensions entre la Chine et les États-Unis, du retour des empires.
Ça, c'est la toile de fond.
Et je ne parle pas de la montée des autoritarismes d'extrême droite, l'autre toile de fond.
Et l'arrivée de Trump. Le quatrième choc, c'est l'arrivée de Trump.
Un des reproches qui a été fait à cette période, c'est l'impuissance de l'Europe à mettre fin à la guerre en Ukraine et plus largement précisément à organiser une Europe de la défense. Et c'est l'incapacité de l'Union européenne à parler d'une seule voix sur Gaza. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Comment l'avez-vous ressenti?
L'Europe ne pouvait pas arrêter la guerre en Ukraine. Mais là, je pense que je peux être fier ou content d'avoir réussi à faire de sorte que le lendemain de la guerre, du début de la guerre, les Européens se soient mis d'accord pour armer l'Ukraine. Écoutez, quelques jours avant le début de la guerre, j'étais au Donbass, dans la région où la guerre était déjà là, La guerre n'a pas commencé. La guerre a commencé en 2014. Il y avait clairement une ligne de front. C'était un contenu de chars en haut, en bas. C'était tout à fait un scénario de guerre. Et le premier ministre ukrainien m'a demandé une phrase qui... Ils vont nous attaquer. 150 000 hommes de l'autre côté de la frontière... armés jusqu'aux dents, ne sont pas là, des promenades. Ils vont nous attaquer. Dites-moi, quand ils vont nous attaquer, quand ils nous attaqueront, vous, Européens, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça, c'est une question crue et dure, faite au milieu de la nuit, à côté d'une ligne de front. Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je ne peux pas lui dire, parce que la décision dépend de l'unanimité, imaginez-vous. Et qu'est-ce que je pouvais lui dire ? Écoutez, je pense qu'on va vous aider. Oui, d'accord, mais comment ? Parce que je sais bien, il m'a dit que vous n'allez pas envoyer vos jeunes mourir pour Kiev. Les jeunes européens ne vont pas venir se battre à nos côtés, on ne demande pas autant. Mais est-ce que vous allez nous donner des armes pour nous défendre ? Et là encore, je n'ai pas pu lui dire oui, parce que je ne savais pas. Et quand la guerre a commencé, quelques jours plus tard, tout de suite, la réaction européenne, c'est toujours la même, la bureaucratie, on va mettre des sanctions, économiques. On va sanctionner la Russie, on va interdire les exports, on va interdire les imports, on va faire des trucs économiques. Et je me rappelle, je leur ai dit aux collègues, oui, c'est très bien, mais ça ne va pas arrêter les chars russes qui foncent sur Kiev. Nos sanctions économiques vont avoir effet dans quelques mois, et dans quelques mois, la guerre sera finie. Alors, si vous voulez faire quelque chose, il faut armer l'Ukraine en utilisant la European Peace Facility, cette facilité qu'on avait créée pour équiper les armées africaines. Si on équipe les armées africaines, pourquoi on ne peut pas équiper l'armée ukrainienne ? Et quelle est la raison pour laquelle ? Ah, parce que l'armée ukrainienne fait face à une guerre. Oui, raison de plus. Raison de plus, ils font face à une guerre. C'est le moment de les aider. Et par miracle, je dis bien par miracle, tout le monde s'est mis d'accord, et l'Hongrie aussi. Ils ont dit, oui, mais moi, mon argent, je ne veux pas qu'il soit employé pour des armes létales. Oui, mais je ne veux pas laisser survoler mon territoire pour les avions qu'ils transportent. Mais on est tous d'accord, on va mettre cet argent en marche. Et ça a commencé un processus de l'Union européenne, en tant qu'institution, à armer l'Ukraine. La première fois que l'Union faisait ça.
Sur Gaza ?
Sur Gaza, ça a été tout le contraire. Sur Gaza, d'abord, il y a eu une claire usurpation des fonctions de la part de la présidente de la Commission, qui s'est précipitée, sans demander l'avis à personne, à aller voir M. Netanyahou, en accompagnant la présidente du Parlement. Je dis usurpation des fonctions parce que, comme je vous ai dit, la Commission n'a pas de compétences en politique extérieure. Donc, ce n'était pas elle aller dire quoi que ce soit. C'était au président du Conseil européen. Le traité dit que c'est les représentants de l'Union. Mais, enfin, elle y est allée, elle a reçu beaucoup de critiques pour cette position. Elle a exprimé l'appui à Israël, au peuple d'Israël. Très bien, mais... Mais tout de suite après, la division s'est établie d'une façon claire et nette. D'un côté, il y avait les pays qui disaient Israël a le droit à se défendre, point. Et d'autres qui disaient Israël a le droit à se défendre en respectant le droit international. Et le troisième volet, la question véritable, critique, mais... Est-ce qu'il le fait ? Parce que c'est facile à dire. Israël a le droit de se défendre tout en respectant le droit international et le droit international humanitaire. Mais est-ce qu'il le fait ? Est-ce qu'il le fait ? Parce que s'il ne le fait pas, il faut le dire. Mais ça, on n'a pas voulu répondre à cette question jusqu'au mois de février il y a 2 ans. L'Espagne et l'Irlande ont posé la question ouvertement. On veut savoir si l'Europe pense qu'Israël agit d'accord avec les droits internationaux. Ils ont écrit des lettres à moi, la présidente de la Commission, le président du Conseil. Il n'y a pas eu de réponse. La Commission n'a jamais répondu, n'a jamais voulu se poser la question. Moi, j'ai demandé un rapport, parce que nous avons un délégué spécial pour le respect des droits humains dans le monde. Nous l'avons, hein. Nous avons une équipe de gens qui surveillent qu'est-ce qui se passe ici et là, et dénoncent des violations des droits humains. Et j'ai amené au Conseil européen un rapport en disant « voilà ce qu'il se passe ». Quand l'Espagne avait posé cette question-là, à ce moment-là, il y avait 20 000 morts à Gaza. 20 000 morts. Quand j'ai amené mon rapport au Conseil, il y en avait 70 000. 50 000 de plus. Et malgré le fait qu'il y avait 50 000 morts de plus, la majorité des femmes et des enfants, le Conseil n'a pas voulu prendre aucune décision vis-à-vis d'Israël. Parce que la majorité des États fermaient les yeux.
C'est ce qui fait, Josep Borrell, que dans un documentaire d'Albert Solé pour Arte, au cœur de la diplomatie européenne, dans lequel il vous a suivi pendant plusieurs mois, on vous voit amer, surtout après les déchirements internes, justement, à propos d'Israël et de Gaza. Et vous dites, l'Europe n'est pas proactive, mais réactive. Elle sera donc ce que le monde l'oblige à être, c'est-à-dire faible.
Dans le cas de Gaza, incapable d'agir. Chaque pays a fait ce qu'il a voulu. Et j'ai entendu dire à des leaders européens qui étaient en visite à Tel Aviv, dire au Premier ministre Netanyahu son concern, parce que le mot qu'on utilise le plus en Europe, c'est le concern. We are concerned. We are very much concerned. We are extremely concerned. Mais le concern ne se traduit pas en acte. Mais j'ai entendu lui dire qu'ils étaient concerned, préoccupés, parce qu'il y avait trop de morts. Il était en train de tuer trop de gens. Alors je leur ai dit, mais si vous trouvez qu'ils sont en train de tuer trop de gens, envoyez-le moins de bombes. Parce qu'ils le tuent avec vos bombes. Ils le tuent avec vos projectiles. Arrêtez de pleurer des larmes de crocodile. Si vous pensez qu'il y a trop de morts, ben, c'est facile, vous envoyez moins d'armes. Ah non. Non, là, ça a été pour moi la preuve que l'Union européenne n'était pas fidèle à ses valeurs.
Vous avez l'habitude, et même pendant vos fonctions, encore plus maintenant que votre parole est plus libre, mais de ne pas avoir votre langue dans votre poche. Et certaines déclarations, notamment sur Gaza, mais pas seulement, vous ont valu des volets de bois vert ont été qualifiés de polémiques à plusieurs reprises.
Mais d'accord, je veux bien. Je ne dis pas que Netanyahou a créé Hamas. Non, Hamas est créé tout seul. Mais que Netanyahou a permis que Hamas reçoive des financements via Qatar. Écoutez, j'ai entendu dire ça au secrétaire général des Nations Unies en s'adressant aux membres du Conseil européen. Alors, qu'on ne me raconte pas d'histoire. Si c'est moi qui le dis, on tape dessus. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a dit aux membres du Conseil européen, on a créé une créature monstrueuse et maintenant on fait payer les prix à une population civile à qui on l'affame. Et une violation absolue du droit international. Moi, j'étais dans la frontière de Gaza, j'ai vu des milliers de camions. Je dis, papa, je ne gère pas milliers de camions faisant la queue, chargés de nourriture, en attendant pouvoir rentrer. Et on a fermé les yeux devant l'horreur de Gaza. par mauvaise conscience, par calcul politique, mais ça nous a beaucoup décrédibilisé devant le reste. L'Union européenne a été faite pour faire la paix entre nous, dans les années 50-60, pour faire la paix entre Européens, dans un moment où le monde n'était pas globalisé, et il y avait deux superpuissances, et nous vivons sous l'ombrella protectrice américaine. On était un protectorat militaire américain et on continue à l'être. Et le monde où nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout le monde de 1956, de 1958. C'est un autre monde. Même l'idée du monde occidental n'existe plus. Et ça aussi, les Européens refusent de le voir. Refuse, continue à dire oui, mais les États-Unis, c'est notre grand allié. C'était notre grand allié. Est-ce qu'il l'est toujours? Non. Alors je pense que les Européens sont dans un déni de réalité. Et jusqu'à maintenant, on a vécu sous le parapluie protecteur américain. La France est le seul pays en Europe qui a dit, je m'en rappelle, général de Gaulle qui disait, un jour les Américains partiront. Et ce jour-là, il faudra s'évaluer par nous-mêmes. Mais même la France ne passe pas à une action décidée pour pousser. Peut-être toute seule ne peut pas le faire, sans doute toute seule, non. Mais l'Europe reste à inventer.
Vous y croyez encore quand même?
Je crois à l'idée de l'Europe parce que, vous savez, on est tellement petit. Nous, on habite ici, à Madrid, à Paris. L'Europe, c'est la meilleure combinaison que l'être humain était capable de faire du point de vue de liberté politique, du bien-être économique et de la cohésion sociale. Ces trois choses qui définissent une bonne société, la liberté politique, une coexistence pacifique, la sécurité, une certaine prospérité et well-being économique et une cohésion sociale. Il y a des transferts de revenus entre les riches et les pauvres, il y a des aides sociales. On ne laisse pas mourir les gens dans le coin de la rue. On n'est pas parfait et on est loin de ça. Mais je ne connais pas une meilleure combinaison de liberté, prospérité et cohésion que l'Europe. Et nous croyons que c'est comme ça partout. Mais non, c'est presque nulle part comme ça. Et surtout, la jeunesse européenne pense que la paix, c'est un acquis naturel. Que la paix, c'est l'état naturel des choses. Et la paix, c'est pas l'état naturel des choses. L'état naturel des choses, malheureusement, c'est la violence, c'est la guerre, c'est le conflit. Et nous, on s'est amolli un peu. On s'est amolli dans notre bien-être. Alors, si on nous demande des sacrifices, on est tout le temps en train de gueuler, de protester. On a perdu. Quelqu'un qui dit, les Européens ont perdu son. En espagnol, dit ardor herrero. Ardor guerrero, c'est son instinct bellique. Et c'est vrai, on l'a perdu, c'est bien. C'est très bien. On a perdu l'instinct bellique qui nous a amené à la guerre de 1870-1914. On a perdu cet instinct. Et c'est formidable. Le problème, c'est que les autres ne l'ont pas perdu. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas perdu. Au contraire, l'ont beaucoup développé. Et je pense que les Européens devraient se poser clairement la question de comment on fait pour survivre. Pour survivre.
Dans ce monde, Josep Borrell, où vous êtes aujourd'hui le président d'un think tank européen en relations internationales, le CIDOB, le Barcelona Center for International Affairs,
oui,
avec mon bon accent en français,
président
honorifique, mais vous donnez des masterclass, des conférences, des tribunes, vous prenez vraiment position dans le débat public. Est-ce que votre rôle, c'est celui-ci encore? Ou finalement vous vous dites, non mais j'ai eu assez de vie dans ma vie? Assez de moments dans ma vie, je vais aller marcher en montagne, c'est ce qui me reste à faire.
Ben écoutez, cette
au sommet,
cette tentation est toujours là. Je dois vous avouer que après le jour de l'an, je pouvais permettre une confession intimiste. J'ai pris l'avion, je suis parti au Chili. Et je suis parti dans le sud du Chili, dans un endroit où il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas d'internet, pas de téléphone, rien. Rien. Un endroit magnifique, il n'y avait que la nature. Il n'y avait qu'un kayak, un chemin, un sac à dos, les glaciers. Et j'ai passé là 15 jours sans savoir qu'est-ce qu'il s'est passé dans le monde. Et puis tout d'un coup, je suis rentré, j'ai ouvert le téléphone, et le monde m'est tombé dessus. Parce que pendant ces 15 jours-là, c'était, tout était arrivé, le Venezuela, l'Iran, oh mon Dieu, là là là. Alors la tentation du repli, quand on a mon âge, elle est bien évidente. Et c'est normal, non? Et d'un autre côté, je pense qu'on a un certain devoir de pédagogie, un certain devoir d'explication. Je pense qu'on a une certaine obligation d'essayer de comprendre d'abord, et d'expliquer et même s'opposer. S'opposer, parce que si le trumpisme devient la façon dont le peuple organise sa vie politique, le monde sera un endroit bien plus difficile à vivre. Et le trumpisme a aussi des racines en Europe. Il ne se cache pas.
Vous avez un vœu à formuler par rapport à ce monde qui est le nôtre aujourd'hui?
Je pense que ça serait nécessaire que tous les enfants reçoivent des cours de géopolitique. Et tous les enfants à l'école, on les explique le monde tel qu'il est. Il faudrait qu'on leur explique, qu'on leur fasse un cours pour comprendre le monde. Qu'ils aient en tête un peu les dimensions relatives. Qu'ils sachent, les Européens, nous sommes combien dans le monde? Et nous sommes combien? Les Chinois, c'est combien? Et quel est leur revenu par tête de l'Africain? Et il y a combien d'enfants au Sahara? Et il y en a combien chez nous? Les grands paramètres qui font que le monde tourne et devienne ce qu'il est, il devrait être l'enseignement des bases. Avant d'apprendre le classique, il faudrait avoir un aperçu du monde.
Bien, monsieur le ministre, il faut remettre votre casquette de professeur.
J'ai là toujours la casquette de professeur. Moi, et j'ai des gens qui me disent, il faut que tu parles moins et que tu écrives plus.
Alors, il vous reste à prendre soit votre plume, soit votre clavier.
Je vais essayer. Peut-être c'est la seule chose qui me reste à faire.
Un grand merci, Joseph Borrell, pour ces 5 entretiens.
Non, c'est à vous. C'est à vous de me donner l'occasion de m'adresser dans mon mauvais français à ce grand peuple qui a contribué tellement à me faire ce que je suis.
C'était À Voix Nue avec Joseph Borrell, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.